France Musique.
Carrefour des Amériques.
Une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
Paris, La Havane, Montréal, New York, la musique et le monde. Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité au Carrefour des Amériques. Notre saga musicale dans les Amériques justement nous mène en 1941 au port de la Havane où affluent toujours des réfugiés en provenance de France, en particulier les derniers musiciens cubains qui étaient restés à Paris, comme Filiberto Rico dont l'orchestre avait été le pionnier des orchestres cubains de Paris. Son Rico's Creole Band jouait à la Coupole à Montparnasse. Mais les nazis avaient à l'œil ces musiciens noirs et métis qu'ils disaient dégénérés et Filiberto se savait menacé. Il est alors parvenu à rejoindre in extremis l'Espagne d'où il a pu embarquer pour Cuba. C'est Félix Valver, le saxophoniste de l'orchestre, qui a repris le Rico's Creole Band à la Coupole en 1945 jusqu'au retour de Filiberto Rico en 1946. Filiberto fait partie de ceux qui, à Paris ou sur la Côte d'Azur, vont animer les cafés et les cabarets de l'après-guerre en France. Il va arrêter sa carrière à la fin des années 60. Il se retire alors dans un petit village de Lyon, où il meurt le 29 décembre 1976. Quand il était revenu à la Havane en 1941, Filiberto Rico avait eu sans cesse la nostalgie de Paris. Et il savait qu'il pourrait un jour y retourner. Le soir, en se promenant dans la Havane de 1941, Filiberto n'en revient pas. Il ne reconnaît plus la Havane. C'est devenu une ville si opulente, si animée, il en a presque le vertige. Les lumières des publicités, les théâtres, les orchestres aux terrasses des cafés. On lui parle du nouveau cabaret, dans le quartier de Marianao, dans un magnifique jardin tropical, le cabaret Tropicana. Comme l'annoncent les néons à l'entrée, c'est un paradis sous les étoiles. Et la première revue est somptueuse. Son titre, La Conga Pantera, la panthère conga. Elle est créée le 21 avril 1941, avec notamment les danseurs du ballet de Monte-Carlo qui s'étaient retrouvés bloqués à la Havane à cause de la guerre. Sur scène, la belle chanteuse Rita Montaner, le pianiste noir Bola De Nieve et l'exceptionnel percussionniste noir Chano Pozzo, qui n'hésite pas à se mêler au ballet, surtout quand il danse sa rumba parampampin, qui met carrément le feu au spectacle.
Chachaleando en el sol.
Durant les fêtes de fin d'année en 1941, il avait fallu réserver ses places bien à l'avance pour pouvoir entrer au Tropicana. Tout comme dans les autres cabarets et théâtres de la ville qui font le plein pour les fêtes. Et la saison musicale était à l'unisson. Au théâtre Auditorium, l'orchestre philharmonique avait donné son dernier concert juste avant Noël sous la direction de Massimo Freccia et la soliste était la pianiste française Emma Bouanet. Elle avait alors 49 ans et jouait surtout aux États-Unis, en particulier avec l'orchestre de Boston sous la direction de Serge Koussevitzky, qui en avait fait sa pianiste de prédilection. Voilà comment la Havane nous donne aujourd'hui le plaisir de retrouver une artiste française trop oubliée. À la Havane, elle avait joué le concerto en la de Schumann et bien sûr des œuvres françaises, en particulier du Forêt, dont elle était alors l'une des meilleures interprètes en Amérique. On écoute Emma Bouanet dans la barcarolle numéro 6 de Gabriel Fauré.
Thank you.
la pianiste française Emma Boinet, comme à la Havane, dans cette barcarolle numéro 6 de Gabriel Fauré. Et puis la saison d'opéra avait été très brillante à Cuba à la fin de l'automne. Cavalleria Rusticana, Payas avec Giovanni Martinelli, La Bohème, Othello, et le spectacle très glamour où Grace Moore est accueillie à nouveau en grande star hollywoodienne. Elle chantait Manon aux côtés du jeune ténor québécois Raoul Jobin, qui avait eu un succès inouï dans le rôle de Desgrieux. Il faut dire qu'il avait non seulement la voix, mais l'élégance, et quelle diction pour chanter Jules Massenet.
Je suis seul, seul enfin, c'est le moment suprême. Plus rien que j'aime, que le repos sacré, que m'apporte la foi. Oui, j'ai voulu mettre Dieu même entre le monde et moi.
À la fin de Manon, au salut, c'est le délire dans la salle, lit-on dans la presse. Nous entendions le ténor québécois Raoul Jobin enregistré ici, 5 années plus tard, avec l'orchestre du Metropolitan Opera de New York, dirigé par Wilfred Pelletier. Avec Raoul Jobin, c'est le Canada et le Québec en particulier qui arrivent à Cuba pour lui rester très fidèle. Pendant ce temps à Paris, l'exode continue. Parmi les derniers réfugiés cubains à arriver à la Havane, il y a 2 peintres. D'abord, Mario Carreño, à qui le Lycéum avait consacré une exposition avant qu'il ne parte en voyage en Espagne, au Mexique et enfin à Paris, où il avait installé son atelier à Montmartre en 1937. Le musée du jeu de paume avait d'ailleurs acquis quelques-unes de ses œuvres. Le second peintre est plus connu, c'est Wilfredo Lam. Il était arrivé à Paris quelques mois après Carreño et s'était lié d'amitié avec Fernand Léger, Miro, Braque, Matisse et Picasso. Quand la guerre éclate, Wilfredo Lam quitte Paris pour Marseille, où il peut compter sur le comité américain de secours aux intellectuels créé par le consul américain Varian Fry. Il y retrouve André Breton et Lévi-Strauss. Tous embarquent pour New York le 25 mars 1941. À l'escale de la Martinique, ils sont tous internés dans un camp, puis libérés sous caution. Wilfredo Lam rencontre alors Aimé Césaire, dont il se sent très proche. Breton part le 14 juillet pour New York. Wilfredo Lam accoste lui à Cuba au mois d'août. Ce sera un ardent défenseur, aux côtés de l'ethnologue Lydia Cabrera, de la culture afro-cubaine. On écoute le chœur créole de Cuba qui chante à Santiago de Cuba ses racines haïtiennes, comme ici dans « C'est la vie », chanté en créole haïtien et en espagnol. La vie du pordiosero, le mendiant qui va chercher fortune sur les chemins. Le chœur créole de Cuba, fondé en 1997. À La Havane, en 1941, le peintre Wilfredo Lam met tous ses espoirs dans la nouvelle constitution promulguée le 8 juin 1940. Il ne revient pas d'ailleurs que Cuba possède à présent une constitution tellement plus progressiste qu'ailleurs. Après avoir un instant salué l'accord germano-soviétique, toujours sur le Conseil des communistes, le président Batista se joint aux forces démocratiques dans la guerre contre les nazis. Le 9 décembre 1940, il déclare la guerre au Japon et deux jours après au Reich allemand et au gouvernement fasciste d'Italie. Puis, il est aux États-Unis, où il déclare que l'Amérique latine applaudirait toute action de l'ONU contre les régimes de Franco en Espagne. Ces actions en faveur des syndicats et de la classe ouvrière sont applaudies par le Parti communiste, qui traite de réactionnaires les opposants à Batista. Grâce à la nouvelle constitution, il y a comme un élan nouveau dans la société civile, dans la vie culturelle aussi. Dans la musique populaire, des voix nouvelles attirent l'attention, des femmes en particulier qui vont devenir de vraies stars. Par exemple, la belle mulâtre Celia Cruz qui vient de triompher lors d'une émission à la radio et la toute jeune Olga Guillot qui connaît un succès foudroyant avec une chanson qui évoque la beauté de la campagne cubaine, Amorosa Guajira. Sa voix de mezzo très sensuelle fera d'elle l'une des plus grandes chanteuses cubaines. On l'écoute dans cette Amorosa Guajira, cette paysanne amoureuse, enregistrée ici dans les années 50.
Aroman las flores y arrulla un palmar. Ay, bajo el cielo azulado, un guajiro enamorado sus penas de amores se puso a cantar. Ven, amorosa guajira, que ya nada me inspira ni el canto del ave que surca el azul. Ven, alegrar mi bohío, que hasta el lecho del río se ha vuelto sombrío porque faltas tú. Se ha quedado solita y al verla tan triste me causa dolor. Ven, porque mi amor se muere y mi alma no quiere, preciosa guajira, vivir sin tu amor. Causa dolor, ven, porque mi amor se muere y mi alma no quiere, preciosa guajira, vivir sin tu amor,
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 vivir sin tu amor.
En 1941, Cuba se sent pousser des ailes, est un peu sur un nuage, d'autant plus que la politique, pour une fois, n'est pas encore trop corrompue. Le 29 mars, c'est au Nouveau Théâtre Américain, que les Cubains appellent avec fierté notre Radio City Musical de New York, qui compte d'ailleurs 1800 places, que le compositeur Ernesto Lecuona organise des concerts monstres, comme il les appelle, des concerts très spectaculaires. Sur scène, il peut y avoir 4 ou 5 ou 8 pianos, un grand orchestre et s'il le faut, un chœur et les plus grands artistes lyriques cubains. Des spectacles aussi exubérants que sa dernière Salsuela qui, après la Havane, fait un triomphe à Buenos Aires. Lola Cruz, véritable hymne à la valse cubaine, dans un décor de rêve, aux grands escaliers blancs que descendent de sublimes chanteuses en interprétant l'air, tout le monde fredonne dans la rue. Damisela Encantadora, charmante demoiselle, un peu comme dans une de ses opérettes viennoises dont raffolent les Cubains.
Por tus ojos negros llenos de amor, por tu boquita roja que es una flor, por tu cuerpo de palmera lindo y gentil se muere mi corazón. Si me quisieras, figulina de abril, mi vida entera yo te daría a ti. Si tus labios rojos yo pudiera besar, moriría de amor. Damisela encantadora, damisela serás mi amor. Sin distinción, me dedican requiebros con gran pasión. Con mi aire de princesa, bello y juncal, les destrozo el corazón. Si yo te diera mis caricias de amor, tu vida entera se abrazará de ardor. Si mis labios rojos tú pudieras besar, sabrías que es amor. Damisela encantadora, damisela mordida muero. Si me miras, si me besas, damisela serás mi amor.
La soprano cubaine la plus populaire, Esther Borja, avec l'orchestre de la radio CMQ, dans cette mélodie de Lola Cruz de Lecuona.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
Pendant ce temps, aux États-Unis, la musique cubaine est toujours aussi appréciée du public, la musique populaire bien sûr, mais aussi la musique de concert. En 1941, c'est Morton Gould qui compose sa Latin American Sinfonette. Morton Gould aimait beaucoup l'Amérique latine et notamment Cuba. Il avait déjà arrangé pour son orchestre la comparsa d'Ernesto Lecuona, un arrangement qui avait eu un grand succès à Cuba. Il était né en 1913 dans l'état de New York et après ses études, il avait accompagné des films muets avant d'être nommé comme pianiste en résidence au Radio City Music Hall. Mais c'est vraiment à la radio qu'il est devenu célèbre. Il avait ce talent de mêler à merveille la bonne musique populaire avec les grands compositeurs de musique classique. Dès le début des années 1940, il est sur la chaîne CBS et il touche à l'époque des millions d'auditeurs. Écoutons un extrait de son tango pour orchestre, un tango né à Cuba, qui a parcouru toute l'Amérique jusqu'en Argentine, bien sûr. Mais c'est ici plutôt un rêve de tango, à peine esquissé, suspendu pianissimo, comme un nuage au-dessus du temps et de l'espace. Thank you. Le tango de la symphonie latino-américaine de Morton Gould, auquel succède une guaracha cubaine. La guaracha chantée aimait diffuser autrefois les nouvelles du pays. Voilà qui est parfait pour accompagner la liesse et l'enthousiasme provoqués à Cuba par la nouvelle constitution promulguée le 8 juillet 1940, qu'on en juge. Toute discrimination pour des raisons de sexe, de race, de couleur ou de classe sera punie par la loi. La peine de mort est abolie. Aucun détenu ne pourra être mis au secret. Tout Cubain pourra entrer et sortir du territoire national. Il ne pourra être expatrié. Aucune censure ne pourra empêcher à quiconque d'exprimer son opinion en utilisant tous les procédés de diffusion disponibles. La pratique d'une religion est libre. La séparation de la religion et de l'État ne permet en aucun cas à l'État de subventionner un culte quelconque. Concernant les droits de la femme, eh bien cette dernière n'a pas à demander la permission à son époux pour gérer ses propres biens, pour exercer une activité commerciale ou artistique, et elle a tout pouvoir pour disposer du produit de son travail. Le divorce est autorisé, y compris par consentement mutuel. Puis viennent les articles sur la durée du temps de travail, les congés, l'enseignement, qui doit être laïque, gratuit et obligatoire dans le primaire et le secondaire, et partiellement gratuit à l'université. Le droit de grève est reconnu. Le président est élu au suffrage universel. Oui, Cuba peut être fier d'avoir promulgué un jour une telle constitution qui tiendra quand même 15 ans. Et cela vaut bien une guaracha, celle de Morton Gould en l'occurrence. La petite symphonie latino-américaine par Morton Gould et son orchestre. L'Amérique est encore présente à La Havane au printemps 1941 quand débute la saison lyrique où sont invités de grands chanteurs en représentation au Metropolitan Opera de New York. Comme le ténor polonais Jan Kiepura qui avait fait les beaux soirs de l'Opéra Comique de Paris et était devenu une vedette de cinéma à Hollywood à la fin des années 30. À La Havane, il chante Don José aux côtés de la célèbre Carmen du Metropolitan Opera, la contralto Bruna Castagna. Puis suivent Rigoletto, la Bohème, le Barbier de Séville. Enfin, les 5 et 6 mai, c'est un événement à Cuba. La soprano américaine Rose Bumpton vient chanter le rôle d'Éléonore dans le Trouvère de Verdi. Elle a alors 34 ans, elle est au sommet de sa carrière, la presse lui rend hommage, car il se trouve que son oncle est mort à Cuba en luttant pour l'indépendance de l'île. Inutile de dire que les billets s'arrachent au théâtre Auditorium. Nous sommes revenus, écrit une journaliste, au beau temps des grandes soirées du Metropolitan Opera de New York. On écoute Rose Bumpton dans un air d'Aida de Verdi, enregistré ces années-là.
Thank you.
En feuilletant la revue cubaine Carteles, publiée à la suite de l'élection de Batista, une photo retient l'attention. C'est une réunion au sommet qu'il préside. On se rend compte, ou plutôt, on prend conscience que Cuba vient d'élire pour la première fois un homme de couleur au sommet de l'État. On oublie trop souvent que Batista était métisse. Le 1er mai, dans un discours, il exalte le pouvoir de la démocratie pour lutter contre les nazis en Europe et de son côté, son ami, le leader communiste Juan Marinello, fait publiquement un éloge très remarqué des États-Unis et du président Roosevelt. Cuba est très fier de voir le pays à l'avant-garde de la démocratie et du progrès, fier aussi de ses artistes qui triomphent dans le monde entier, notamment son pianiste Jorge Bolet, qui revient régulièrement à Cuba, commence cette fin décembre 1941 pour donner plusieurs concerts. Chopin est surtout au programme et en particulier ses études. Quand Jorge Bolet revient à Cuba, ses récitals sont des vraies retrouvailles. Le public l'accueille avec émotion. Et quand il rentre en scène, c'est une salve d'applaudissements suivie aussitôt par un recueillement plein d'affection pour l'enfant du pays. Jorge Bolet interprétait l'étude en la bémol majeur opus 25 numéro 1 de Frédéric Chopin. Jorge Bolet, en ce mois de décembre 1941, était resté à la Havane pour passer les fêtes en famille avant de remonter sur la même scène du théâtre Auditorium avec l'orchestre philharmonique de la Havane dirigé par Massimo Freccia le 12 janvier 1942 pour interpréter Nuit dans les jardins d'Espagne de Manuel de Falla. Eh bien, on l'écoute dans La Andaluza de Manuel de Falla. En automne 1941, la deuxième saison lyrique de La Havane avait connu bien des déboires à cause de la guerre. Plusieurs artistes n'avaient pas pu faire le voyage aux Amériques, à commencer par le ténor Jussi Björling. Les autorités allemandes ne lui avaient pas donné de visa pour sortir de Suède vers Lisbonne, où il devait embarquer directement pour La Havane. Le 25 septembre, c'est le ténor Jan Peerce qui vient en dernière minute de New York pour chanter Rigoletto. Par contre, les artistes sont tous à l'appel pour Madame Butterfly et pour Faust, avec en tête d'affiche Ezio Pinza et Eleanor Stieber. Pendant ce temps, le pianiste cubain José Echaniz, qui avait 9 ans de plus que Jorge Bolet, mène de front sa carrière de pianiste et de chef aux États-Unis. En 1941, il remporte un franc succès à la tête de l'orchestre de Chicago, avec Beethoven, Tchaïkovski, Debussy, l'Adagio de Samuel Barber. Et pour finir, à la cubaine comme il se doit, il dirige la rumba, extraite de la deuxième symphonie d'un jeune compositeur américain de 36 ans, Earl MacDonald. Une symphonie qui évoquait la Grande Dépression, la rumba et la musique étant là pour aider à surmonter les épreuves. Une bonne leçon d'optimisme sur rythme de rumba cubaine pour nous dire au revoir aujourd'hui. Une rumba cubano-américaine en technicolor dirigée par Léopold Stokowski pour se quitter aujourd'hui et se donner rendez-vous bien sûr dans le prochain Carrefour des Amériques. Une émission des médias francophones publics réalisée par Géraldine Brutner et Pierre Monteil. Émission qu'on peut écouter et réécouter en podcast.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.